franceinter.fr.
Voici la revue de presse. Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour Patrick.
On commence avec un homme qui sort de son silence, c'est Michel Platini.
Et c'est Raphaël Baquet du Monde qui est allé à sa rencontre dans le petit village suisse de Genolier, au-dessus du lac Léman. Elle y a trouvé un homme fragilisé. Je trouve honteux d'être traîné dans la boue, dit-il, mais combatif et qui veut croire qu'il pourra se présenter à la présidence de la FIFA. Malgré sa suspension de 3 mois, malgré cette vilaine affaire des 2 millions de francs suisses versés sans contrat, 9 ans après le travail effectué. Sur cette affaire, Platini réitère sa défense, celle d'un petit chose qui n'a jamais été intéressé par l'argent, qui se trompe de somme quand il doit finalement envoyer la facture à la FIFA. « Demandez à ma femme, dit-il, tel l'inspecteur Colombo, je ne regarde jamais aucun compte. » Et Christelle Platini lève les yeux au ciel, décrit Raphaël Baquet. Platini raconte cette transaction, conclue de vive voix, un truc d'homme à homme, dit-il. Avec un Sepp Blatter qu'il admirait à l'époque, convient-il. Oui, j'admirais le politique, il m'avait d'une certaine façon envoûté. Michel Platini qui réfute aussi en bloc toutes les accusations de favoritisme ou de pot de vin liées à son vote en faveur du Qatar pour la Coupe du Monde 2022. Platini donc accroché à ses crampons pour être candidat coûte que coûte. J'espère qu'on ne va pas m'empêcher de me présenter. Ça les énerve que ce soit un footballeur et pas un pur politique qui veuille diriger. Mais je n'aime pas perdre, surtout pour une affaire qui n'en est pas une.
On vient d'en parler avec notre invité Philippe Martinez de la CGT, mais l'ouverture de la conférence sociale est aussi évidemment à la une de la presse ce matin.
Et je ne voudrais pas vous donner des regrets, Philippe Martinez, mais vous allez peut-être manquer quelque chose. Je passe rapidement sur ce que la presse dit de cette conférence sociale. Tout a déjà été dit, ou presque, qualifié de Barnum par le quotidien libéral L'Opinion. Il y manque tous les sujets qui fâchent pour Libération. L'humanité voit dans son ordre du jour et les conditions de la rencontre une flétrissure d'État. Et les échos pointent la fracture sociale qui s'élargit aujourd'hui entre la gauche réformiste et la gauche radicale, aussi bien qu'entre les syndicats réformistes et les syndicats contestataires. En fait, La Croix est quasiment le seul journal à insister sur le verre à moitié plein concernant l'état du dialogue social en France, soulignant que contrairement aux apparences et aux derniers incidents à Air France, il n'est pas si mal en point que ça, ce dialogue social, que François Hollande a placé en pierre angulaire de sa méthode. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, mais chaque année, rappelle La Croix, 36 000 accords d'entreprise et près de 1 000 accords de branche sont signés par tous les syndicats, y compris le vôtre, Philippe Martinez, vous l'avez également rappelé, puisque la CGT ratifie 84% des accords qu'elle négocie dans les entreprises. Alors vous allez peut-être rater quelque chose, et c'est un papier à lire cet après-midi dans Le Monde qui nous laisse penser, parce que ce qui se joue en ce moment même, ce qui va être abordé aujourd'hui autour des discussions sur la sécurisation des parcours professionnels, c'est rien de moins que la mutation de l'organisation du travail. Le 21e siècle sera-t-il celui de la fin du salariat ? S'interroge la journaliste Valérie Segond. Nous n'en sommes pas là, les non-salariés ne représentent encore que 10% des actifs, mais le monde du travail est aujourd'hui bousculé par les transformations numériques. Celles-ci créent de nouveaux travailleurs, précaires, vrais, faux, indépendants, des formes de travail qui échappent aux réglementations professionnelles, aux accords collectifs sur les salaires et même aux législations nationales du travail, puisque Internet ignore les frontières. Alors, comment s'adapter à cette mutation du travail? Comment protéger ces actifs qui perdent souvent jusqu'à leur protection sociale? Eh bien, on va en parler aujourd'hui au Conseil économique, social et environnemental de ce travail du 21e siècle. Sans vous, donc, Philippe Martinez, vous n'avez pas de regret de ne pas vous intéresser à ce travail du 21e siècle ?
On s'y intéresse fortement. D'ailleurs, on crée des syndicats dans des entreprises qui ont une forme de travail numérique. Ce qu'il y a, c'est que là aussi, un rapport est tombé. Le Premier ministre va faire ses conclusions. Quelle est la place de la négociation ? Ça fait 10 ans que la CGT réclame une sécurité sociale professionnelle. On est prêt. On a un texte. Et on est d'accord pour en discuter, ça devrait pouvoir se faire.
Alors vous auriez pu le faire aujourd'hui, mais vous n'allez pas.
Je ne crois pas, vous l'avez entendu, qu'il y ait beaucoup de place pour discuter aujourd'hui.
À la une également, Hélène, ce matin, la carte scolaire va-t-elle être modifiée ?
Alors Libération croit savoir que oui, la ministre de l'Éducation serait prête à lancer des expérimentations pour modifier cette sectorisation qui a produit les lycées ghettos, mais en réalité, le quotidien ne semble pas en savoir tellement plus. À lire néanmoins un reportage qui illustre les effets pervers de cette sectorisation géographique au collège Las Cases de Montpellier. La journaliste raconte comment à Las Cases, les dérogations, les départs dans le privé, les stratégies d'évitement par le jeu des options ont fait de ce collège un exemple ou un contre-exemple de non-mixité. 95% d'élèves d'origine marocaine et un enfant d'origine française par classe. Une non-mixité qui renforce le problème d'identité vécu par les élèves, racontent les professeurs. Et c'est la sociologue Nathalie Mons qui l'affirme pourtant, la mixité dans les classes, eh bien c'est bon pour tout le monde, pour les résultats scolaires de tous et pour la cohésion sociale. Dans Libération encore, la drôle d'interpellation de Serge Levaillant en charge des portraits dans Libé, qui demande à Élise Lucet de donner son salaire. « Soyez cash », lui dit-il, en référence à Cash Investigation, magazine dans lequel la présentatrice met en scène les dévoilements des turpitudes financières et réclame des comptes au gros portefeuille. Il reproche à la journaliste de ne pas faire elle-même profession de vertu au nom de la transparence, dit-il. Cela permettrait selon lui à une France du secret d'abjurer sa culture catholique et d'en finir avec le goût de la dissimulation notariale. Et bien du coup, au nom de cette transparence, Luc Levaillant nous gratifie de son patrimoine personnel. 4000 euros net par mois, un prêt en cours et une vieille Volvo Break, 16 ans d'âge. Donc aujourd'hui en France, Le Parisien, une bonne nouvelle pour les parents inquiets. Les jeux vidéo aident à guérir. Les professionnels de la santé les appellent les ludis médicaments. Ils peuvent aussi bien aider à la prévention qu'à la thérapie, paraît-il. Alors le célèbre Tetris aiderait par exemple à lutter contre les envies compulsives de tabac, de drogue et même de sexe. Effectivement, tant qu'ils jouent, les utilisateurs ne pensent plus à leur drogue habituelle. De la même façon, en défouraillant à tout va dans Call of Duty, vous pouvez aussi, paraît-il, lutter contre la cataracte puisque votre œil, eh bien, se muscle. Et puis enfin, un professeur du CHU de Bordeaux en charge des adolescents raconte comment il a participé à la conception d'un jeu Clashback, un jeu vidéo qui simule les comportements adolescents. Scénario par exemple de Chloé, 16 ans, en conflit avec son père parce qu'elle veut se faire tatouer, donc pas son père. Jouer, ça libère la parole, explique le médecin, à vos consoles donc.
On termine par le verdict attendu en fin de matinée pour l'écrivain Éry De Luca.
Un verdict rendu par le tribunal de Turin et une certitude, Éry De Luca l'a répété à l'Humanité, il ne fera pas appel de la décision. Je suis fièrement indifférent au résultat, dit-il. Si les mots sont des crimes, je continuerai à les commettre, disait la semaine dernière à Paris l'écrivain italien, poursuivi pour incitation au sabotage sur la ligne à grande vitesse Lyon-Turin. L'UMA qui reproche aux politiques français leur silence assourdissant. Et pourtant, hier, le journal du dimanche affirmait que François Hollande avait appelé le Premier ministre italien, Matteo Renzi. Selon Cécile Amar, le président lui aurait dit que les écrivains ne doivent pas être poursuivis pour leurs textes. Sans indulgence, paraît-il, du côté italien. Éry De Luca risque donc jusqu'à 8 mois de prison ferme, mais ce soir, quoi qu'il lui arrive, il a prévu un bon repas avec ses amis du Val de Suse, ceux concernés par la ligne haute vitesse.
Merci Hélène Jouan.